sujet lui-même, le boom de la culture yiddish, et je n'arriverai pas à toucher à tous les aspects de la question, mais j'essaierai d'évoquer les plus importants. Il n'y a rien d'étonnant dans le fait que la préhistoire et le début de l'histoire du Bund aient été marqués par une certaine indécision en ce qui concerne les questions nationales et culturelles. En la matière, le seul point complètement clair dans les conceptions des jeunes intellectuels juifs russophones qui ont adhéré les premiers aux idées socialistes avant d'aller les diffuser parmi les travailleurs juifs était celui qui concernait l'internationalisme du mouvement révolutionnaire. Par contre, la continuité de la langue et de la culture populaire qui allait de soi pour les socialistes d'autres peuples n'était en rien évidente aux yeux de ces petits-enfants du mouvement des Lumières qui avaient remplacé l'instruction par la révolution en guise de panacée pour les maux du peuple. Tout comme la Haskala russe dont il reprenait le flambeau, il fluctuait en matière de langue entre l'hébreu, c'est le cas de Aaron Lieberman, le russe, qui leur était naturel, et le yiddish, choisi dans un premier temps par souci d'efficacité. Et puisque la question linguistique et culturelle s'inscrivait nécessairement dans le cadre d'une définition d'ordre national, comment pouvait-il y avoir d'emblée une position catégorique alors que ni les tenants de la Haskala ni même l'orthodoxie religieuse majoritaire dans les communautés n'en possédaient aucune? Eu égard à tout cela, on trouvera plutôt étonnante la célérité du processus par lequel le jeune Bund a élaboré une réponse cohérente à la question nationale et culturelle. La résolution souvent citée du 4e congrès en 1901, qui affirme que les Juifs de l'Empire russe constituent une nation spécifique à laquelle reviennent des droits nationaux, dit aussi clairement qu'aux yeux du Bund, ces droits, que l'ensemble des Juifs et les socialistes parmi eux se doivent de revendiquer, prennent la forme d'une autonomie nationale dans le domaine de la langue, de l'éducation populaire et des autres aspects de la culture nationale. C'était là le premier pas vers la formulation d'un programme national complet qui fut terminé en 1905. Ces revendications du Bund étaient une première dans la Russie des Tsars. Pour la première fois, en effet, une formation socialiste organisée tenait, et c'est là en plein essor de son développement révolutionnaire, à mettre à l'ordre du jour la difficile question des minorités nationales et proposer l'application des idées nouvelles qui commençaient seulement à s'effrayer un chemin dans les rangs de la social-démocratie autrichienne. En agissant de la sorte, le Bund forçait les autres courants socialistes de l'Empire russe à prendre conscience d'un problème qui était et reste encore vital pour les populations de l'Europe centrale et orientale. Et ce n'est pas par hasard que la réaction la plus virulente contre le programme national du Bund est venue du côté des gens de Iskra, le courant léniniste, noyau du futur bolchevisme. On peut dire qu'en ce qui concerne le Bund, la même approche qu'il avait poussé à adopter sur le plan de l'organisation un modèle démocratique où la priorité était donnée à la volonté des organisations locales des travailleurs et plus largement aux intérêts de la base, cette même approche donc, transposée au domaine culturel, l'a menée à surmonter résolument les ambiguïtés de la courte période dite de neutralisme pour se donner tout de suite un programme national épousant les aspirations spontanées des travailleurs juifs. Par contre, du côté léniniste, la même pensée qui était la leur, qui exigeait une organisation centralisée et une discipline verticale d'appareil, prétendait en matière culturelle trancher la question des minorités nationales dans un esprit dogmatique sans prendre en compte les aspirations réelles des populations porteuses des cultures minoritaires. Le programme national du Bund jamais vraiment appliquée, constituait pourtant l'ébauche d'une réponse juste, anti-impérialiste et anti-hégémonique à ces problèmes ardus des minorités nationales, y compris les minorités extraterritoriales. Sur le front culturel interne, le Bund s'est identifié à un courant qui n'était qu'à ses balbutiements, la culture séculière en langue yiddish. Les deux choix, celui du yiddish et celui de la laïcité, ont été faits dans l'esprit qui était celui du Bund, profondément démocratique et largement perméable à la sensibilité des masses populaires. C'est justement pour cette raison que la démarche concernant la langue a été différente de celle qui touchait à la religion. Si le yiddishisme du Bund a été combatif, voire agressif, c'est qu'il se savait en résonance avec les sentiments de la masse populaire, peu ou pas du tout instruite en hébreu et ayant donc le yiddish pour seule langue. Une position si tranchée ne pouvait manquer de donner lieu à certaines exagérations et attitudes unilatérales. Ainsi, la seule représentante du Bund à la conférence de Tchernovitz en 1908, Estelle Frumkin, a été aussi la seule à exiger contre vent et marée qu'on attribua au yiddish le statut d'unique langue nationale du peuple juif, position, qu'il faut avouer, faisait fi du rôle vital joué par l'hébreu, le Loshon Kodesh, dans la structuration de la culture populaire juive, y compris pendant tout le XIXe siècle. Par contre, le laïcisme du Bund n'avait rien de combatif. En Europe orientale, le Bund n'a jamais mené de campagne antireligieuse. Il s'est borné à laisser agir la tendance spontanée des travailleurs de la jeune génération, aux yeux desquels la lutte sociale et l'instruction moderne constituaient des besoins vitaux au point de les éloigner tout naturellement des modèles de vie et des institutions typiquement orthodoxes ou chassidiques. Mais à l'intérieur des institutions communautaires, lorsqu'il s'est décidé à y participer, le Bund a adopté le plus souvent une attitude respectueuse envers les formes du judaïsme traditionnel auxquelles une grande partie de la masse populaire adhérait toujours. Avant même la création du Bund, des liens de sympathie s'étaient noués entre les premiers cercles de travailleurs socialistes juifs et certains milieux de la nouvelle littérature yiddish. On se souviendra que la fréquentation de réunions clandestines de travailleurs a valu à Yitzhak Leib Peretz une courte période d'emprisonnement à Varsovie. C'est le même Peretz qui exprimait la protestation des travailleurs juifs et inspirait leur combat par des poèmes comme « Mein ich de Welt is a Kretschme »« Ne crois pas que le monde est une taverne » et des nouvelles comme « Le Streimel » ou « Bonche Schweig » écrites dans les années 1890. De même, David Pinsky, jeune disciple et ami de Peretz, accompagna les premières années du Bund en tant que militant et aussi qu'écrivain, et ce fut la maison d'édition bundiste Die Welt à Vilne qui publia en 1905 le drame de Pinsky, la famille Tzvi, dont le sujet est le pogrom de Kishinev, et c'est là, malgré le fait que le personnage le plus convaincant de la pièce est un vieillard pieux qui meurt un martyr de la foi juive. Les cercles de travailleurs socialistes, ainsi que plus tard les bibliothèques populaires bundistes ouvertes dans des centaines de villes et de bourgades, et les maisons d'édition du Bund, Die Welt et plus tard Kulturliga, ont ouvert pour la littérature yiddish un champ d'action immense, ce qui a eu une influence énorme sur tous les aspects du développement culturel. Bien sûr, la force du Bund et son rôle par rapport à la littérature ne pouvaient manquer de poser à terme les problèmes d'un risque de mainmise de la part du mouvement sur l'ensemble de la vie littéraire. Pendant les premières années du siècle, Peretz et d'autres dénoncèrent, avec raison, certaines pressions idéologiques dangereuses. Mais il faut dire à l'honneur du Bund qu'en général, il a su résister à la tentation de vouloir imposer des diktats partisans à la vie littéraire, y compris au moment et aux endroits où il avait le pouvoir de le tenter. En témoigne, entre plusieurs autres faits, l'amitié exemplaire qu'il y a Vladimir Medem à un écrivain apolitique, on pourrait même dire bourgeois, comme Yankev Dinesson, jusqu'à la mort de ce dernier, ou les rapports cordiaux qu'entretenaient Jehiel Yeshay et Trunk, les plus en vue des écrivains bundistes dans la Pologne d'entre les deux guerres, avec des auteurs comme Aaron Zeitlin ou Yitzhak Bashevis, situés aux antipodes du socialisme et du laïcisme. Dans le même esprit de tolérance, les bundistes ont continué à considérer comme membres de leur famille des auteurs comme Shin Einsky ou Alef Weiter, bien que leur appartenance au mouvement ait été interrompue au bout d'un certain temps. On peut dire d'une manière générale qu'à une époque où la vie associative et culturelle des Juifs se distinguait par les déchirements politiques, le sectarisme et l'intolérance, l'attitude du Bund envers la culture yiddish, sans être complètement libre des traits fâcheux de ce regrettable esprit du temps, est demeurée néanmoins dans une large mesure ouverte et souple. L'ouverture et la disposition à coopérer avec d'autres secteurs caractérisent aussi l'action du mouvement dans un autre domaine culturel auquel le Bund de la Pologne de l'entre-deux-guerres a contribué par un apport essentiel et où il a récolté quelques-unes de ses réussites les plus remarquables. Je parle du champ de l'éducation et de la construction de l'école yiddish populaire et laïque. Dès avant la Première Guerre mondiale, des théoriciens du Bund s'étaient sérieusement penchés sur le problème de l'école. Mais lorsque la guerre a aggravé la crise du système éducatif religieux traditionnel et ébranlé complètement les conditions de vie des centaines de milliers de familles juives, des bundistes se sont attelés à la tâche concrète de mettre en place un nouveau système d'éducation juive. Le premier à le faire fut Vladimir Medem, qui s'est engagé de toutes ses forces, non seulement dans les démarches pour mobiliser des gens et des moyens afin d'organiser des maisons d'enfants et des écoles, mais s'est consacré personnellement à l'équipement et à l'approvisionnement de ces établissements, travaillant d'arrache-pied aussi à la rédaction de textes scolaires et participant aux discussions sur le programme d'études de l'école yiddish. Détail intéressant, dans le débat sur le niveau et le type des langues qu'on utiliserait dans l'école, Medem s'est prononcé pour la conservation du vocabulaire d'origine hébraïque, qu'il affectionnait beaucoup aussi lorsqu'il écrivait lui-même, et pour la sauvegarde des différents dialectes. Bien que tout le monde au Bund ne fût pas de son avis, il tenait à traiter la question linguistique avec une grande largeur de vue, loin des préjugés idéologiques et loin aussi d'une ambition planificatrice exagérée qui aurait risqué d'appauvrir la langue. À la veille de son départ définitif pour l'Amérique en 1921, Medem avait conduit les forces politiques associées à son projet jusqu'au stade de maturité suffisant pour que cette même année fut créée la Tzicho, Centrale Yiddische Schulorganisation, l'organisation centrale d'école yiddish, où le Bund agissait ensemble avec les folkistes ou autonomistes et les coalitionnistes. Premier président de la Tzicho de 1921 jusqu'à sa mort en 1928, le populaire leader bundiste Beinisch Michalevich a persévéré dans la même politique d'ouverture et de coopération avec tous les courants laïques et démocratiques. En s'inspirant de la vieille tradition éducative du judaïsme, Michalevich insistait sur le principe de la responsabilité matérielle que les parents doivent prendre pour l'éducation de leurs enfants. Il a lutté infatigablement pour que l'existence matérielle de l'école yiddish soit assurée indépendamment de toute aide venue de l'étranger, et a réussi à convaincre les organisations syndicales juives en Pologne de prélever régulièrement une cotisation pour les écoles laïques en yiddish. Malgré tous ces efforts, les écoles de la Tzicho rencontraient les plus grandes difficultés pour exister. Au fur et à mesure que la démocratie dans la Pologne indépendante régressait, leur champ d'action rétrécissait sous l'influence conjuguée de la mauvaise situation économique et des tracasseries des parts des autorités. Ce sont peut-être ces facteurs-là qui expliquent le parcours idéologique de Shloïm Mendelssohn, qui a été, à la mort de Mikhalevitch, la figure prédominante de la Tzicho pendant la dernière décennie jusqu'à la guerre. Élevé dans une famille de l'élite chassidique, Shloïm Mendelssohn avait adhéré dans sa première jeunesse au folkisme. Homme de vaste culture, il avait été, dès le début, l'une des principales têtes pensantes de la Tzicho en ce qui concerne le contenu et l'orientation des programmes d'études. Il a travaillé aussi sur le projet de loi scolaire que les représentants folkistes ont présenté au Parlement polonais. Au bout de 10 ans de travail, il s'est convaincu qu'une école juive libre n'avait de chance de se développer qu'à condition de s'inscrire dans le projet d'une société libérée de l'oppression économique et politique. Il s'est donc rapproché du Bund pour finalement y adhérer. Sous l'inspiration et l'impulsion de Shloïm Mendelssohn, les écoles laïques yiddish de Pologne, bâties et entretenues par la ferveur des travailleurs et le dévouement des parents et enseignants, ont atteint des sommets de qualité pédagogique avec des fleurons comme le séminaire d'enseignants à Vilne ou le célèbre foyer Medem, le Medem Sanatorium. Il faut tout de même signaler, pour ne pas tomber dans l'idéalisation, que malgré les convictions d'un Medem ou d'un Mendelssohn, la pratique des études dans ces écoles n'était pas, loin s'en faut, complètement libre de toute trace de sectarisme, de ce sectarisme qui a si lourdement caractérisé les idéologies juives du XXe siècle. Il est par exemple frappant, sur le plan de la langue, qu'une bonne partie du vocabulaire yiddish traditionnel d'origine hébraïque était enseignée avec si peu d'insistance que souvent les élèves sortaient de l'école sans être assez préparés pour comprendre certaines pages de ces mêmes Yitzhok Leibowitz Peretz dont la Tzicho vénérait pourtant la mémoire. Mais ce qui était parfois négligé sur le plan de la langue était très honnêtement rattrapé par l'étude de l'histoire. Sous l'impulsion de Shloïm Mendelssohn, les écoles de la Tzicho ont adopté un programme d'histoire sans œillères où on accordait une place respectable, par exemple, à la création culturelle religieuse pendant le Moyen-Âge. Là encore, on peut signaler, je crois, un degré d'ouverture plus important dans l'école bundiste que dans la sioniste. Hier, pendant les ateliers, Philippe Boukara signalait à juste titre que formellement le Bund n'a reconnu jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale d'autres nations juives que celles vivant en Russie puis en Pologne, tandis que pour le sionisme, l'unité du peuple juif dans toute sa dispersion et diversité était un postulat initial. Eh bien, sur le plan de l'école, nous assistons à ce paradoxe. Le sionisme, censé tenir à l'unité de toutes les communautés juives, s'applique dans l'école à effacer le souvenir de leur parcours historique et culturel. Tandis que l'école bundiste, issue d'un mouvement apparemment réfractaire à ces liens, intègre le passé et les acquis de tous les juifs par l'étude de leur histoire et par l'étude de la littérature yiddish, dépositaire de l'expérience du peuple entier et pas des seuls juifs de Russie. Les liens entre le Bund et la culture yiddish se resserrent encore davantage après le génocide qui frappa aussi cruellement l'un que l'autre. Le bundiste Yank Efpat, réfugié en Amérique, est en 1948 l'un des principaux architectes du Congrès mondial pour la culture yiddish, le Kulturkongress, qui accomplira pendant presque 30 ans une importante tâche de conservation, édition et diffusion culturelle en Amérique, en Argentine et aussi ici en France. L'école bundiste, transplantée dès les années 1930 en Amérique du Nord et en Amérique latine, et plus tard aussi en Australie, connaît encore deux bonnes décennies d'essor dans l'après-guerre. Les grands pédagogues survivants de la Tzicho, comme Avram Golom et Chaim Shmuel Kasdan, y jouent encore un rôle important. Ce sont des bundistes aussi qu'on retrouve dans bon nombre de maisons d'édition, des associations culturelles et des publications qui ont assuré, tant que faire se pouvait, la continuité de la culture yiddish jusqu'à nos jours. Et ce n'est pas par hasard si la seule bibliothèque yiddish en activité en Europe occidentale et le centre le plus actif d'enseignement de la langue dans ces pays fonctionnent sous le nom de Vladimir Medem et sous le toit de l'Arbeiterring, le cercle amical formé par les bundistes de Paris il y a deux générations. Le Bund de l'après-guerre n'a surtout jamais cessé d'alerter l'opinion juive en Israël et ailleurs sur l'erreur monstrueuse représentée par la politique anti-yiddish menée sans relâche par les gouvernements israéliens et les instances sionistes jusqu'à il y a 20 ans et dans une large mesure encore jusqu'à nos jours. Si la clairvoyance du Bund en matière strictement politique est parfois discutable, cette analyse culturelle s'est avérée parfaitement juste. Le hiatus de l'identité engendré par une éducation sioniste négatrice de l'histoire est bien le contraire de cette synthèse de l'expérience juive ancienne et moderne que véhicule naturellement le yiddish et sa littérature. L'escamotage de ces facteurs, par les sionistes ou par d'autres, peu importe, et pour beaucoup dans le vide culturel où s'épanouissent parallèlement les extrêmes opposés de la perte de l'identité et de l'intégrisme. Merci.